et lire ensemble un psaume qui n'est pas long. Il est composé de 7 versets. C'est le psaume 11. Le psaume 11. On va méditer, on va réfléchir sur ce psaume et en particulier une question qui s'exprime dans ce psaume. Au chef des chantres de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire « Fuis dans vos montagnes comme un oiseau » car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Amen. C'est le roi David qui est l'auteur de ce psaume, le psaume 11. Je parlais d'une question qui se trouve dans ces versets. Nous venons de lire cette question. C'est David qui pose une question absolument essentielle. Quand les fondements sont renversés, il en faut pour que les fondements soient renversés. Quand les fondements sont renversés, le juste, autrement dit le chrétien, l'enfant de Dieu, celui qui a été justifié, le juste, que fera-t-il ? Que fera-t-il ? Et je voudrais que nous puissions ce matin réfléchir sur cette question. Je mentionnais le caractère quand même solide des fondements. Les fondements d'une maison, c'est pas de la briquette décorative, c'est l'élément de solidité. Ce sont les assises de l'édifice. Si on veut que l'édifice tienne dans le temps et en dépit des différents aléas naturels, il faut des fondements solides. On lit ici une question qui nous projette à une époque où les fondements vont être non seulement ballotté, mais renversé. Et ça nous laisse de comprendre la violence des phénomènes qui réussissent à renverser des fondements. Dieu, le Créateur, nous a créés et il a établi des principes de vie, des lois pour notre bonheur. Ce sont les fondements. C'est Dieu qui a établi les fondements, les valeurs intemporelles qui garantissent le bonheur de l'être humain, de l'humanité en général, de chaque individu. Dieu a établi des fondements. Et la Bible annonce un temps où ces fondements vont être renversés. Alors, bon, certains commentateurs bibliques donnent quelques interprétations possibles. Et dans un premier degré, Certains pensent que David parle de circonstances personnelles où il est dangereusement menacé. Certains pensent que tout ce qu'il a souffert avec Saül, qu'il a précédé à la royauté. D'autres disent c'est peut-être la période avec Absalom, son fils, qui a été une période très dure dans sa vie. D'autres pensent que c'est peut-être avec Cush, ce personnage aussi qui a été un facteur de trouble pour David. Au premier degré, les fondements renversés peuvent parler effectivement de certaines circonstances que David a connues. Mais la Bible, souvent, a plusieurs portées. Il y a la portée immédiate et historique, et puis il y a la portée prophétique. Parce que la Bible nous parle aussi d'un temps qui doit venir, et bien évidemment, il est là, sous nos yeux, un temps où les fondements allaient être violemment menacé et même renversé. Il y a un verset, on aurait pu en lire d'autres, un verset qui nous annonce un temps où, dans les lieux spirituels, un événement va se produire où le diable va être chassé des lieux spirituels et il va être précipité sur la terre. Et dans Apocalypse 12:12, il est écrit « Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Et ce verset, eh bien, sans faire une étude approfondie ce matin, le temps nous manquerait, ce verset se situe dans la phase où arrive cette période de la grande tribulation. Et nous vivons un temps particulier, frères et sœurs et chers amis. Les circonstances qui se produisent, qui sont relayées par les journaux télévisés, tout ce que nous voyons et entendons, sont des signaux, des choses qui doivent interpeller notre intelligence, notre bon sens. Nous ne vivons pas des temps ordinaires, mais nous vivons des temps où, jour après jour, nous sommes choqués. Nous sommes plus que surpris, nous sommes sans réaction lorsque on entend qu'un jeune de 14 ans est poignardé à mort par deux lascars qui voulaient simplement son téléphone portable. On se dit, on vit des temps particuliers. Lorsque l'on entend les faits divers qui nous sont relayés jour après jour, il suffit que dans une bouche de métro, je frôle l'épaule d'un piéton pour que ce dernier sorte un couteau de son sac, me court derrière et frappe là dans le cou. Et heureusement que le gars, il avait la sangle en cuir de son sac. Ça l'a épargné, ça l'a gardé, mais on se dit, mais on vit des temps particuliers, on vit des temps où, au petit de quelques années, de 5-6 ans, on lui apprend que c'est lui qui plus tard décidera s'il est un garçon ou s'il est une fille. On s'attaque à des valeurs, je dirais, fondamental. C'est le Créateur qui a établi les choses, et les choses qu'il a établies sont controversées, sont remises en question, sont gravement agressées, et les fondements sont renversés. Dans le domaine géopolitique, c'est la guerre, c'est la violence, la soif de pouvoir, peu importe les victimes collatérales. Dans le domaine de la nature et du climat, on est saisi par des images fortes, des lotissements entiers sont dans l'eau, il y a des catastrophes, semaine après semaine, on vit des temps particuliers. Et ces temps particuliers, nous ne devons pas nous y habituer, mais nous devons les laisser nous interpeller. Chaque événement doit nous interpeller et nous inviter à réfléchir, à se ressaisir s'il y en a besoin et à être comme ces vierges sages qui veillent avec une réserve d'huile plein leurs lampes, que le Seigneur soit béni. Il y a des phénomènes, je dirais, inédits dans leur ampleur, dans leur sévérité, dans leur gravité. Je lisais il n'y a pas longtemps, quelques années, en 2021, il y a une statistique qui a été faite par les économistes en France. Le 29 juillet 2021, les ressources d'une année étaient épuisées. Donc les 5 mois restants, la France a vécu à crédit. Il y a un appauvrissement, et ce n'est pas lié à la France seulement, mais c'est général. Il y a un appauvrissement, un épuisement. La nature est épuisée, l'humanité n'en peut plus. Il y a des signes alarmants qui sont là, sous nos yeux, et il y a la fameuse question. Le chrétien, lui, dans ces temps difficiles, que fera-t-il ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Ou si tu préfères, qu'est-ce que tu ne vas pas faire ? Oui, parce qu'il y a un conseil qui est donné à David dans ce psaume, un conseil que moi j'ai appelé sur mes petites fiches, un conseil piège, fuis, fuis, fuis dans les montagnes. Et ce conseil qu'on lui donne fait réagir David, homme de foi. Il fait réagir David, homme de Dieu. Et David dit, mais comment pouvez-vous me dire, fuis ? Moi, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Et c'est ce que je te conseille, mon frère, ma sœur, mon ami. C'est là la sagesse de David, l'homme de Dieu, qui peut devenir la clé de ta victoire. Tout s'écroule. Et pardonnez-moi de ne pas enjoliver l'avenir, parce que l'avenir va aller encore quelque temps de pire en pire jusqu'à ce que le Seigneur lui-même intervienne, établisse son règne. Ça ne va pas aller en se simplifiant, en s'améliorant, mais la question, elle te concerne, elle me concerne. Que vais-je faire ? Que vas-tu faire ? Quelle sera ta réaction ? Alors, bien sûr, il y a cette proposition tentante. Fuis ! Fuis ! Et ce verbe fuir, il est synonyme de lâcher, d'abandonner, de céder le terrain, fuis. Alors, j'ouvre une parenthèse très courte pour dire que dans certaines circonstances, fuir est la sagesse et la prudence qui nous préservera, puisque l'apôtre Paul va écrire à Timothée « Fuis les passions de la jeunesse ». Lorsque Joseph a été tenté par la femme de Potiphar, il a fui, et c'est ainsi qu'il a, eh bien, qu'il s'est préservé. C'est un conseil que je peux adresser ce matin à quelqu'un qui peut-être vit des temps de tentation. Là, et là seulement, la sagesse t'invite à fuir. Il y a des fréquentations, il y a des projets, il y a des perspectives que tu es invité à fuir parce que, au-delà de ce qu'on te propose, il y a un piège. Je referme la parenthèse pour dire qu'à part cette exception, l'enfant de Dieu ne fuit pas, mais il résiste. Et j'aimerais axer mon message ce matin à apporter un encouragement à chacun d'entre nous, à ne pas fuir, à ne pas abandonner, à ne pas céder le terrain. Comment pouvez-vous me dire, et dans le texte originel, On pourrait traduire comment pouvez-vous dire à mon âme de fuir. Il y aura toujours quelqu'un qui susurrera à tes oreilles jusqu'à ton âme ce conseil maléfique. Arrête. Arrête de prier. Arrête d'espérer. Oh, ferme ta Bible, range-la dans le placard. Arrête. Abandonne. Tu vois bien que plus tu pries et moins ça va. Arrête d'attendre quelque chose qui ne se réalise pas et qui ne se réalisera jamais. Ce sont les pensées pièges que l'adversaire cherchera toujours, et en particulier dans nos moments un peu de faiblesse et peut-être d'usure, de susurrer à notre âme. J'aimerais être aussi réactif que David. Amen. David a réagi. Sans compromis. Comment me dites-vous de fuir? Mon frère, ma sœur, ne fuis pas. Ne fuis pas. Nous pouvons fuir. Nous pouvons fuir, par exemple, notre position de foi. Nous pouvons fuir notre position de foi. Il y a eu dans l'histoire du peuple d'Israël des épisodes où le peuple d'Israël a fui devant les Philistins. Mais dans ces épisodes de fuite générale devant l'adversité, il y a eu des héros. Et que notre Église soit composée de héros et de héroïnes. Amen. Il y a eu des héros qu'on appelle dans la Bible les vaillants soldats de David. Alléluia. Par exemple, tout Israël fuyait devant les Philistins menaçants et nombreux, mais il y en a un, il s'appelait Shammah, il s'est dit, mais je vais pas abandonner notre héritage aux mains de l'ennemi. Tout seul, par sa foi et sa vaillance, cet homme s'est retourné contre les Philistins à lui tout seul, mais surtout avec l'aide prodigieuse de Dieu, il a battu les Philistins et il a défendu un champ de lentilles. Shammah, c'est un nom particulier. Il est repris ce nom en désignant Dieu. D'ailleurs, c'est le dernier verset du livre d'Ézéchiel. Yahvé Shammah. Le livre d'Ézéchiel se termine avec Yahvé Shammah. L'Éternel est ici. Qu'est-ce qui a permis à cet homme de devenir un héros, si ce n'est sa foi, qui attestait fortement à son cœur, ne fuis pas, ne crains pas, l'Éternel est ici. La présence réelle de Dieu a donné à cet homme une assurance, une autorité absolument miraculeuse, et il s'en est suivi une retentissante victoire. Alors, lorsque tes fondements personnels sont menacés, ce qui va te permettre de ne pas fuir et abandonner ton héritage, c'est de te souvenir que la présence de Dieu est ta garantie. C'est ce que David exprime dans ce premier verset. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Amen. Même si tu as l'impression d'être arrivé à l'extrémité de tes forces, ne crains pas, mais en l'Éternel, cherche ton refuge. le refuge dans les montagnes. Dans les montagnes, il y a des refuges. Hein. Dans les hautes montagnes, il y a des refuges. Et quand on part comme ça en montagne, on n'y va pas sans préparation. On repère les refuges. Et on se dit, voilà, au bout de 3 heures et demie de marche, on va arriver à ce refuge. Un jour, on faisait un camp itinérant avec nos ados de l'église d'Annecy, en Haute-Savoie, et un dimanche matin, après notre culte, entre nous, on est parti et on a gravi le sommet de la Tournette, qui n'est pas non plus un haut sommet, mais quand même suffisamment haut. Lorsque on est parti, il y avait un ciel bleu, un formidable soleil, et au fur et à mesure que on montait, un nuage, trois nuages, et puis en une demi-heure, on s'est retrouvé dans les nuages, et des nuages de plus en plus chargés, et on était à quelques centaines de mettre du refuge. Alors, pour l'anecdote, bon, ça c'est un petit peu l'arménien, en retenant le refuge, on a préféré la solution économique, c'est-à-dire camper sur le terrain du refuge, mais pas dans le refuge. C'était moins cher. Ouais. Sauf que quand on a vu arriver l'orage, on était en train vite de mettre quelques sardines, etc. Mais moi, ça allait très très vite, n'est-ce pas? Alors j'ai couru vers le couple responsable de la gestion du refuge. Et je leur ai dit, écoutez, regardez ce qui se passe. Tant pis, on va vous payer, mais est-ce que vous accepteriez d'accueillir tous ces ados? L'épouse regarde son mari regarde son épouse, le refuge était vide, il n'y avait pas un pensionnaire. Et ils m'ont dit, c'est impossible, parce que vous auriez dû réserver. Oh. Alors dans mon cœur, je vous assure, j'ai envoyé un SOS au Seigneur. Hein. Et on était en train de marcher pour donner la nouvelle aux ados, et on m'appelle entre-temps, finalement. Les gérants du refuge ont eu compassion de nous et on est entré dans le refuge. Au moment où on ferme la porte du refuge, c'est des trombes d'eau qui s'abattent sur le sommet de la montagne. Mais quand on voit la tempête de l'intérieur, c'est mieux, hein. Je vous assure, c'est mieux. Et on était tellement contents. Alors nous, toujours par économie, ce jour-là, le midi, on avait prévu un sandwich avec du cervelas et une pomme, voyez. Mais là, on était tellement contents qu'il y a un animateur, il a dit « Je paye la fondue savoyarde à toute l'équipe ». Oh là 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 là, ça a été la fête, Et le refuge, on l'a apprécié, le refuge. Un refuge, c'est un espace où il faut tout le nécessaire. Il n'y a pas de superflu. Dans le refuge, il n'y a pas de superflu. Vous voyez, il n'y a pas de tapisserie, il n'y a pas de déco. Non, c'est ce qu'il faut pour être à l'abri, au chaud, pour bien manger, pour bien dormir et faire sa douche le matin. Le nécessaire. Eh bien, David disait, c'est en l'Éternel que je cherche mon refuge. Il y a en Dieu tout le nécessaire, il ne manquera aucune ressource, tout le nécessaire pour me préserver de la destruction. Et quand au dehors les fondements sont renversés, le juste, au lieu de fuir, cherche en l'Éternel son refuge. Et devant cette proposition piège, allez David, fuis parce que les temps sont durs, abandonne le terrain, démissionne, va-t'en, fuis. David s'est montré absolument inébranlable et intraitable, parce que la foi, c'est pas du chewing-gum, la foi, c'est pas de la pâte à modeler, la foi, elle est inébranlable. Et il y a un verset que j'aimerais adresser à quelqu'un ce matin qui dit ceci: le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Dieu s'est engagé à te rendre inébranlable. Et quand les pensées démissionnaires et d'abandon viennent titiller ton tympan, réagis. Comment abandonnerai-je? Comment fuirai-je? Non, car le Dieu de toute grâce qui m'a appelé en Jésus-Christ s'est engagé à me rendre inébranlable. Vous et moi devenons des croyants inébranlables. Ça va secouer à l'extérieur, ça va secouer. Les temps vont devenir de plus en plus angoissants. La Bible nous parle même de l'angoisse des nations. Eh bien, le juste, lui, il cherche son refuge en l'Éternel. Je vais y revenir tout à l'heure. Oui, je parlais des fondements qui sont violemment menacés. Dans une sorte d'accélération et d'amplification, parce que le mal, malheureusement, dès le jardin d'Éden avec le péché, le mal s'est exprimé. Mais il faut admettre que les temps qui sont les nôtres nous présentent une amplification. C'est comme si l'iniquité approchait du seuil de la patience de Dieu. Nous vivons ces temps-là. Sous prétexte de laïcité, on cherche à anéantir tout ce qui est en rapport avec la foi. Vous allez voir dans quelques temps, on va supprimer des calendriers les saints, tout ce qui rappelle, tout ce qui a une notion, voyez, on fait tomber les monuments historiques qui font l'identité de la France parce que tout simplement, ils sont en relation avec quelque chose qui parle de la foi chrétienne. Tout est fait pour faire disparaître la foi. Voilà. Vous saviez ça? On ne va plus dire Noël, on va dire Bel-Hiver. Oui. C'est dans l'intention de tous ces wokistes là qui veulent tout chambouler. On ne dira plus joyeux Noël, on dira bienvenue au bel hiver. Vous voyez, on va se souhaiter un bel hiver. Vous voyez, tout ce qui a une connotation en rapport avec la foi et la foi chrétienne, eh bien, est combattu. Et l'intention est maintenant évidente pour tous de faire disparaître ces fondements. Établi depuis si longtemps sous prétexte de défendre les minorités. On cherche à déconstruire ce que Dieu a créé et a établi. Je parlais du transgenre tout à l'heure. Eh bien, c'est un exemple triste et on peut même dire scandaleux. L'éducation des enfants est établie sur un objectif, c'est celui de déconstruire les repères culturels pour reconstruire une mentalité complètement déformée. C'est exactement les verbes qui sont utilisés par un ancien ministre de l'Éducation nationale, il y a quelques temps maintenant. Déconstruire, enlever les fondements, les repères essentiels pour reconstruire, mais selon une mentalité complètement apostate et de laquelle Dieu est absent. La justice est absente, la santé est menacée. Notre système de santé, qui était un des plus performants au monde, est dans un état qui est proche d'une banqueroute. Le respect de la vie, je parlais tout à l'heure de tous ces comportements violent et parfois meurtrier. Les fondements sont renversés. Ce sont des temps qui préparent l'apparition de l'Antéchrist, ça on le sait. Et la grande question, eh bien, c'est que fera le chrétien? Est-ce qu'il va se calfeutrer dans une sorte d'anonymat? Est-ce qu'il va se blottir dans un coin? Est-ce qu'il va s'enfermer? Est-ce qu'il va fuir, comme je l'ai dit tout à l'heure, son héritage? On peut fuir, on peut fuir, on peut fuir notre appel. On peut fuir notre appel. Dieu a appelé Jonas. Va à Ninive. J'ai une mission qui t'est dédiée. Et la Bible nous dit, vous connaissez tellement cette histoire, Jonas a fui. Dieu désigne l'Est, Jonas va à l'Ouest. Il fuit l'appel de Dieu. Il fuit l'appel de Dieu. C'est tellement important de rappeler à notre mémoire que nous sommes sauvés pour servir. Il y a un appel. Dieu nous appelle. Dieu n'appelle pas uniquement au ministère pastoral, mais Dieu appelle chacun de ses enfants à remplir une mission, un service. Dieu n'est pas satisfait de voir son enfant dans la passivité, dans l'improductivité, mais Dieu nous appelle. Ce que tu as reçu, tu es appelé à le faire fructifier pour le salut d'un grand nombre. On peut fuir notre appel, on peut, derrière la timidité, derrière peut-être les complexes d'infériorité, dire « mais non, je ne suis pas à la hauteur ». Mais personne n'est à la hauteur. Cependant, Dieu nous appelle, en sachant que quand Dieu appelle, il qualifie et il promet d'être avec celui et celle qu'il a appelé à le servir. On peut fuir notre appel, on peut fuir notre responsabilité. Notre responsabilité, vous savez, c'est un réflexe d'autodéfense devant un problème de dire « c'est pas ma faute ». C'est la faute d'eux. C'est la faute d'eux. Alors ça peut être la faute de Dieu, s'il y avait un Dieu. Ça peut être la faute de la société, du gouvernement, la faute du professeur, la faute. C'est la faute des autres, c'est la faute du système. Ça rend bien service, ça. C'est la faute du système. Mais le prophète Daniel, devant les temps difficiles qui étaient les siens, n'a pas fui sa responsabilité. Dans une prière bouleversante, il s'approche de Dieu et il s'intègre dans la responsabilité de l'état dans lequel se trouve le peuple d'Israël. Il dit « nous avons péché ». Il aurait pu dire « ils ont péché et moi quand même je me suis conservé pur pour toi Seigneur ». Non. Il a un cœur tellement marqué par la situation, il ne fuit pas ses responsabilités et il se tient devant Dieu, à genoux, il prie, il intercède, il demande pardon pour lui et il demande pardon pour les péchés du peuple. Et vous savez quoi? C'est pourquoi Dieu l'a appelé homme bien-aimé. Ça a touché le Seigneur. Ne fuyons pas nos responsabilités, mais endossons dans la prière, dans l'intercession, dans le combat spirituel, la situation qui est la nôtre dans ces temps difficiles. Que le Seigneur nous donne de ne pas fuir. Alors je parlais de David, l'homme inébranlable, il nous explique ce qui lui a permis de rester dans la foi. En fait, ce sont les quatre derniers versets qui nous donnent quelques éléments et je vous les livre d'une manière un peu comme ça, chronologique. Au verset 4, David dit « L'Éternel est dans son Saint-Temple ». Ça, c'est une réalité qui va permettre à David de ne pas vaciller. L'Éternel est dans son Saint-Temple. Je mentionnais tout à l'heure le livre d'Ézéchiel qui se termine. L'Éternel est ici. Alors son Saint-Temple, moi je crois qu'on peut quand même dire que ça se décline au moins dans trois dimensions. Son Saint-Temple, c'est les cieux. C'est son habitation. Dieu non seulement est dans les cieux, mais il règne dans les cieux. Son trône est dans les cieux. Gloire à Dieu. La terre peut connaître des spasmes violents, mais Dieu, lui, il règne dans les cieux. Amen. Mais son Saint-Temple, c'est aussi l'Église. C'est aussi l'Église. Mes frères et mes sœurs, nous ne sommes pas simplement une association cultuelle déclarée en préfecture. Ça, c'est pour les hommes. Mais au regard de Dieu, nous formons son Saint-Temple. Il n'y a rien de plus important dans nos rencontres d'Église que la présence de Dieu. Que Dieu soit présent. Une présence agissante. Une présence se révélant au cœur. Paul va enseigner aux Corinthiens sur les dons spirituels et il va dire que lorsqu'il y a, eh bien, une prophétie intelligible, compréhensible, l'incroyant qui est parmi vous va pouvoir dire Dieu est au milieu d'eux. Oh là là, moi je prie pour que il en soit ainsi dans toutes nos réunions, que les amis, les chers amis que nous accueillons en une matinée, un dimanche, puissent dire, mais ces gens-là, c'est pas comme les autres, c'est culte, c'est Dieu est au milieu d'eux, parce que ce matin, il y a eu une prophétie qui a dévoilé des éléments secrets, intimes de ma vie personnelle. Son Saint-Temple, c'est ce que nous formons ici, hein. C'est le Saint-Temple de Dieu. Oh, que sa présence siège parmi nous. Gloire à Dieu. La présence de Dieu. Oh, qui peut engendrer et produire les fruits les plus miraculeux. Alléluia. Je me souviens de ce dimanche après-midi, la réunion n'avait pas encore commencé. Dans un quart d'heure, elle devait commencer. Mais on était là paisiblement. Et il y avait ce dimanche-là une chrétienne qui avait réussi à amener son mari. Pour la première fois, il était à la réunion. Une armoire à glace, en bois massif, trois portes, ouais. Aussi haut que large. Il était impressionnant, cet homme. Et puis on est là, nous, on est assis, on se prépare, ça va bientôt commencer. Et d'un coup, la réunion n'avait pas commencé, mais Dieu avait commencé son œuvre. On entend des sanglots bruyants. Et entre les sanglots, on entend une prière de repentance. L'armoire à glace était en train de demander pardon à Dieu pour ses péchés. Pourquoi ? Parce que la présence de Dieu était là. Alléluia ! La présence de Jésus produit dans le cœur un impact salutaire. On prend conscience de qui on est, on prend conscience qu'on est perdu, mais en même temps il nous aime, alors on se repent et on reçoit Jésus comme sauveur. La présence de Dieu dans son temple, c'est l'Église, mais je voudrais aussi dire que le Saint-Temple, c'est toi. Amen. Puisque tu as été fait l'habitation de Dieu en esprit. L'Esprit de Dieu t'habite, il m'habite, alléluia. Ce qui fait que quand la réunion se termine, je sors, mais Dieu habite en moi. Et puis demain, c'est lundi, mais Dieu habite en moi. Et de janvier à décembre, dans les jours faciles comme difficiles, Dieu est dans son Saint-Temple, alléluia. Et à l'heure de l'adversité, eh bien Dieu est là. Dieu est là. Un jour, un dimanche, c'était l'école du dimanche et dans un groupe, le moniteur pose une question aux enfants d'une manière imagée. Et il leur dit, les petits, qu'est-ce que vous faites quand le diable sonne à votre porte ? Les petits, ils se sont regardés. Et il y a une petite qui a levé le doigt, là, la main. Là. Oui, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, quand le diable sonne à ma porte, j'envoie Jésus lui ouvrir. Ah, elle avait tout compris, hein. Elle avait tout compris. Mais mon frère, ma sœur, quand le diable sonne à ta porte, rappelle-toi que Dieu est dans son Saint-Temple que tu es. Dieu t'habite envoie le Seigneur répondre à ton adversaire. C'est ainsi que l'apôtre nous dit, résistez fermement au diable et il fuira loin de vous. Que Dieu soit béni. Il est dans son Saint-Temple, va dire David. Deuxième élément, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Ses yeux regardent. Ce que tu vis, Dieu le sait, Dieu le voit et Dieu le connaît. Amen. On n'a rien à lui apprendre dans nos prières. Un jour, il y a un papy, il priait le vendredi soir à la réunion de l'église et il avait des expressions à lui, quoi. Hein. Et un jour, il a prié parce qu'il avait des chaussures usées, il n'avait pas d'argent pour en acheter d'autres. Il dit, Seigneur, tu vois, j'ai besoin d'une paire de chaussures, je fais du 43. Hein. Mais on n'a pas besoin d'informer le Seigneur. Hein. Il connaît ta pointure. Hein. Il sait dans le moindre détail ce que tu vis, ce que tu traverses. La Bible nous dit que Jésus était sur la montagne et qu'il a vu que ses disciples, dans leur barque au milieu du lac, il a vu qu'ils avaient beaucoup de difficultés à avancer parce qu'il y avait la tempête. Jésus l'a vu. Et mon frère, ma sœur, les regards de ton Père Céleste seront toujours attachés sur toi, chacun de tes pas, chacune des circonstances que tu auras à gérer. Dieu regarde. Ce n'est pas un Dieu distrait, défaillant dans sa vigilance, mais sa fidélité est infaillible. Dieu me voit. Amen. Dieu me regarde. Il me suit. Voilà. Nous, de nos trois filles, il y en a une, la cadette, il fallait toujours qu'on ait les yeux sur elle. Toujours. Et quand on la voyait plus, on se disait, elle est passée où? Parce que elle tenait pas en place. Eh bien, Dieu nous regarde. Nous sommes ses enfants, Dieu nous regarde. Dieu nous suit. Il te voit dans la mêlée. Il te voit dans tes combats. Il te voit dans tes questionnements angoissants. Il nous regarde, ce qui nous assure de l'attention paternelle qui nous est acquise. Alléluia. Et David continue. Et David dit, il juge et il rétribue. C'est Dieu qui juge. Amen. Nous n'avons pas à endosser cette responsabilité. C'est Dieu qui juge. Nous nous tenons dans la foi persévérante et dans la prière et l'espérance. Et David continue, et j'aime tellement la fin de ce psaume 11. Les hommes droits contemplent sa face. Alléluia. Les femmes droites aussi. Ça finit comme ça, le psaume 11. Oh, il y a des secousses violentes. Oui, les fondements sont renversés. Ce sont des jours très difficiles. Cependant, la conclusion pour tous ceux qui restent inébranlables dans leur foi, c'est qu'ils contemplent le Seigneur. Gloire à Dieu. Ils se nourrissent de la grandeur de Dieu, de sa beauté, de sa personne. Ils ont les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Peut-être tes fondements sont-ils menacé gravement, prends courage parce que Dieu est dans son Saint-Temple. Il a ses regards sur toi et il a le pouvoir d'un mot de sa bouche d'ordonner la victoire, l'apaisement de la tempête, l'issue glorieuse à ta situation. Alléluia. On s'incline quelques instants, s'il vous plaît, et on prie ensemble le Seigneur. Gloire à Dieu.